divers aspects de la pensée contemporaine, le Grand Orient de France, une émission présentée et réalisée par Thierry Nerzic et Alexis Lacroix. Jean-Philippe Hupsch, bonjour.
Bonjour Alexis.
On ne vous présente pas à nos auditeurs, mais tout de même, vous êtes le grand maître du Grand Orient de France depuis maintenant plus de 2 ans. Vous êtes à la tête de la principale et de la plus ancienne obédience française, qui compte actuellement 54 000 membres. On y reviendra dans un instant. On va faire un petit peu un tour d'horizon de l'actualité, actualité du monde et de la France, mais actualité aussi de l'obédience. Mais tout de suite, une question qui s'impose évidemment dans l'actualité avec les nouvelles mesures décidées afin de juguler les chaînes de transmission du coronavirus. Quelle réflexion, justement, vous inspire la récurrence de cette maladie au cours de cette longue année 2020? Quelle réflexion à l'homme de fraternité que vous êtes?
Nous sommes face à un événement inédit et donc nous sommes tous obligés de nous adapter à cet événement dans notre vie familiale, notre vie professionnelle et pour nous dans notre vie maçonnique. Les nouvelles mesures prises nous obligent à nouveau à revoir notre façon de travailler. Nous avons, dans le premier confinement, essayé d'abord de protéger nos membres, de protéger nos salariés aussi, c'était le plus important.
Ça voulait dire plus de tenue, naturellement, dans des loges et des ateliers où, par définition, la promiscuité est importante.
Alors, plus de tenue d'abord, parce que de toute façon, nous n'avions plus le droit de nous réunir. Et même lorsque l'autorisation est arrivée au niveau de l'été, le besoin d'avoir les meilleures conditions sanitaires possibles pour se réunir, et d'où la réouverture début septembre. Voilà, notre rôle à nous, c'est de protéger les nôtres, mais aussi de faire vivre cette obédience. Ce qui est là toute la difficulté de l'exercice dans une période comme celle-ci.
Alors on peut imaginer évidemment que l'obédience va recourir à des conférences aussi à distance, à tous les moyens du numérique contemporain pour justement faire vivre la vie maçonnique et la réflexion maçonnique entre ces 54 000 membres au cours de la période qui commence et qui va probablement être plus longue que prévu. Enfin, on peut en tout cas le suggérer. Est-ce que vous avez le sentiment, comme humaniste militant que vous êtes, qu'il y a eu des discours ces derniers mois qui étaient très en deçà au fond de la réalité de ce que représente le coronavirus, des discours, on va dire même tentés par une certaine forme d'eugénisme?
Écoutez, c'est facile de critiquer. Ce qui est choquant, très clairement, c'est la parole des sachants. Quand celle-ci n'est pas constante, quand on se met devant sa radio ou son poste de télévision et qu'on entend des professeurs de médecine dire tout et son contraire, au bout d'un moment, on est perdu. Et la population n'a pas droit à ça. On a le devoir de lui dire les choses. Et si on ne sait pas, eh bien, il vaut mieux avouer qu'on ne sait pas plutôt que de partir dans des théories qui, ensuite, forcément, développent toute forme de conséquences dans l'imaginaire et toutes sortes de théories du complot potentielles.
Alors, on va évoquer aussi d'autres sujets, bien sûr, qui marquent le contexte très chargé de cette actualité française en ce milieu d'automne. Jean-Philippe Hupsch, vous êtes aussi au cœur, bien sûr, des mobilisations, on va dire des militants de la laïcité, au sens le plus large du terme. Vous avez d'ailleurs participé à la manifestation unitaire, à l'appel de SOS Racisme, pour dire votre indignation républicaine à la suite de la décapitation du professeur Samuel Paty. On va y venir dans un instant. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que l'exécutif macronien a bien pris la mesure aussi de cet autre péril qui existe, qui est celui de la fragmentation, de l'archipélisation de la société française par les identitarismes?
Nous l'espérons. En tout cas, le discours politique que nous entendons depuis ce drame, mais même avant, à travers la préparation de la loi dite initialement sur le séparatisme, va dans ce sens. Donc, nous espérons que les politiques ont pris enfin conscience de la situation dans laquelle se trouve notre pays, de cette archipélisation si bien définie par Jérôme Fourquet que vous évoquiez. Mmh. Et donc, nous sommes en attente de mesures fortes. Mmh. Et d'autant plus que cet attentat a mis en exergue la situation dramatique qu'on arrive à exécuter de la sorte un enseignant.
Oui.
Comme je l'ai dit, s'attaquer à un enseignant, c'est s'attaquer à la République. C'est totalement inadmissible, c'est même inconcevable.
Alors
il faut réagir.
Alors avant qu'on passe à votre discours, c'est vrai qu'il a marqué beaucoup les esprits. C'était sur la place de la République, en compagnie de nombreuses personnalités de la vie politique. Hein. Il y avait beaucoup de ministres, d'anciens ministres, un ancien Premier ministre comme Manuel Valls qui était là, des intellectuels en grand nombre à l'appel de SOS. Votre discours a particulièrement marqué les esprits, on va y venir dans un instant, mais avant quand même un mot sur les polémiques de la semaine qui s'achève. Certains ont reproché au ministre de l'Éducation nationale de ne pas avoir suffisamment anticipé par sa hiérarchie, par son administration, le fait qu'il fallait protéger les professeurs contre certains fanatiques islamistes, tout simplement, disons les choses clairement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce reproche rétrospectif ?
Moi, je pense d'abord que c'est ceux qui ont mis à la poubelle le rapport Aubin qui doivent aujourd'hui être responsables de beaucoup de choses.
Mmh.
Et que ça fait plus de 15 ans que ce problème existe et en tout cas a été révélé. Aujourd'hui, je n'ai aucune idée. C'est épouvantable qu'un homme puisse être assassiné de la sorte, mais je crains malheureusement que ce ne soit pas le seul enseignant qui soit menacé. Alors, est-ce que la police est là pour surveiller tous les enseignants ? C'est pas forcément dans ce sens-là qu'il faut avancer. C'est plutôt en permettant aux enseignants de faire leur métier, de s'exprimer et en expliquant aux élèves ce qu'est la France, ce qu'est le droit de blasphémer, ce qu'est une caricature. Il y a un vrai travail d'enseignement et d'éducation populaire à faire à ce niveau-là avant toute chose.
Alors, il y a deux semaines, vous étiez à la manifestation unitaire, justement, à la suite de la décapitation de Samuel Paty. Vous avez prononcé un discours, il a assez marqué les esprits, il faut le reconnaître. Est-ce que vous avez le sentiment que les personnes qui sont affiliées au Grand Orient de France, 54 000 personnes, donc c'est important, se sont reconnues dans les paroles que vous avez prononcées ce jour-là ?
D'abord, c'était un discours très court, parce que j'avais 3 minutes de parole.
C'est un peu la loi du genre.
Bien sûr, mais c'était plus un coup de gueule qu'un discours.
Ouais.
Parce que je crois que le mot qu'il faut retenir de ce discours, c'est « assez ». Assez. C'est bien beau de se réunir chaque fois qu'il y a un attentat, mais ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait plus d'attentat. Ce qu'il faut, c'est trouver des solutions pour le pays. Alors oui, bien sûr, quand dans ce discours, je défends les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, je défends le principe de laïcité, je dénonce le terrorisme, je pense bien que les 54 000 frères et sœurs du Grand Orient sont tous derrière, parce que cela fait partie de ce que nous faisons tous les jours dans nos loges.
Alors, vous le pensez bien qu'effectivement, ils se reconnaissent dans ce discours. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, disons-le très clairement, est-ce qu'il y a aujourd'hui différentes tendances qui s'expriment au sein de la famille philosophique que vous représentez, au sein de la maçonnerie française, sur ces questions très importantes aujourd'hui, celle de la laïcité, celle de la République, celle de l'attachement à un certain nombre de transcendantaux de la République ?
Alors, il y a certainement dans la famille laïque des différences importantes, et on le voit dans certaines prises de position, et en particulier en ce moment sur la polémique qui devrait même pas exister sur l'Observatoire de la laïcité, parce que il faut être cohérent par rapport aux prises de position de l'Observatoire de la laïcité
et
en tirer des conséquences.
Vous pensez comme Macron et Castex qu'il faut progressivement lui substituer une nouvelle gouvernance ?
Écoutez, quand on est un observatoire de la laïcité, organisme dépendant du gouvernement, on respecte strictement la loi de 1905 et les grands principes constitutionnels. Et on ne propose pas une forme de laïcité adjective ou plurielle. Donc, qu'il y ait dans la famille laïque des prises de position divergentes, c'est sûr. À l'intérieur du Grand Orient de France, nous avons une définition très simple de la laïcité. C'est la laïcité originelle. Et donc, je n'ai pas, à ma connaissance, de divergence à l'intérieur de l'obédience sur ces sujets fondamentaux. Je ne dis pas que certains individuellement peuvent avoir des prises de position différentes. C'est leur droit, bien évidemment. Mais sur ce sujet-là, l'obédience à une position constante.
Alors Jean-Philippe Hupp, je vous le savais bien, nos auditeurs le savent bien, un des fils rouges, disons, de l'action, on va dire, en matière de justement de laïcité, de république, de respect des principes républicains de l'actuel gouvernement, mais aussi du président de la République, c'est cette fameuse loi contre les séparatismes, nouveau nom sans doute d'ailleurs des anciens communautarismes, qui étaient très à la mode dans les années 2000 ou 2010. Est-ce que vous avez eu, vous, l'occasion de faire connaître la position de l'obédience que vous emmenez, que vous présidez?
Absolument. J'ai été reçu par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et par sa ministre déléguée, Marlène Schiappa.
Il y a un peu plus d'un mois, c'était avant la décapitation de Samuel Paty.
C'était la veille du discours du président de la République aux Mureaux. Donc, j'ai eu une présentation des grandes lignes du projet de loi. Nous attendons maintenant le projet de texte. Et depuis cette rencontre avec les deux ministres, nous avons eu des réunions techniques avec un certain nombre de conseillers techniques au ministère de l'Intérieur, ou avec une petite équipe autour de moi qui travaille sur la laïcité, nous avons été amenés à échanger. Donc bien sûr, nous avons présenté la position du Grand Orient de France sur la laïcité, à savoir une demande réitérée de constitutionnalisation des deux premiers articles de la loi du 9 décembre 1905, et la demande de l'abrogation du concordat d'Alsace-Moselle et des régimes particuliers à Guyane et à Mayotte. Alors je sais que ce n'est pas le sujet, parce que heureusement c'est une loi différente et ce n'est pas une loi qui va modifier la loi 1905, ce que nous ne voulons pas, mais je suis là pour défendre les positions de mon obédience et en dehors de ces positions importantes, bien évidemment nous sommes à l'écoute et nous attendons cet avant-projet de loi pour l'analyser et faire nos remarques, voire nos préconisations
gouvernement. Voir vos amendements, voir vos critiques aussi, vos admonestations peut-être.
Bien sûr, puisqu'il y a visiblement une véritable concertation.
On est très heureux de l'apprendre, Jean-Philippe Hupsch. Nous sommes dans l'émission évidemment du Grand Orient, donc on va parler aussi de l'obédience, de sa gouvernance et peut-être aussi des problèmes que celle-ci a rencontrés au cours de cette année 2020, particulièrement compliquée par la violence de la crise sanitaire, cette crise qui revient ces jours-ci avec beaucoup, beaucoup de violence. Certains vous ont reproché, pendant la première période de confinement, votre gestion. Comment analysez-vous justement ces griefs qui vous ont été adressés ?
Écoutez, je crois que je ne suis pas le seul à avoir droit à des griefs a posteriori. Il n'y avait pas beaucoup de monde pour nous donner des conseils et pour nous soutenir pendant la gestion de crise. Je dirais que cette crise, nous l'avons gérée au niveau du Conseil de l'Ordre, que je précise, avec honnêteté, transparence et collectivement.
Alors justement, comment le Conseil de l'Ordre s'y est-il pris avec vous pour gérer cette crise ?
Nous nous sommes réunis toutes les semaines en visioconférence, pour, étape par étape, prendre toutes les décisions qui s'imposaient pour la protection de nos membres, pour la gestion de l'obédience et pour la faire travailler. Et nous l'avons fait travailler en mettant très rapidement en place un livre blanc sur le monde d'après.
Il est publié finalement ce livre blanc ?
Pas du tout, puisque ce livre blanc, donc, c'est une trame que nous avons rédigée pour laquelle nous attendons les contributions de nos loges. Et nous avons laissé un délai jusqu'au 30 octobre, qui vient d'être prorogé jusqu'au 15 novembre en raison des circonstances sanitaires actuelles, pour recevoir les contributions. À ce jour, un tiers des loges, ce qui est énorme, nous ont envoyé des contributions. Et en nombre, on est à plus de 2000 contributions. Donc derrière, il va y avoir un très gros travail d'analyse.
Voilà, et probablement d'édition aussi de ces contributions. Alors, vous ne pouvez pas tout publier, je suppose.
C'est tellement important qu'il y aura un site internet dédié. Et ensuite, on va faire une extraction des idées qui nous paraissent les plus intéressantes, les plus innovantes, les plus originales. Et ce sera moi ou ce sera mon successeur, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est que le travail soit bien fait. Et quand il sera terminé, celui qui sera à la tête de l'obédience en fera toute la communication extérieure et en particulier vis-à-vis des autorités de la République.
Jean-Philippe Hupsch, c'est passionnant. Il nous reste une minute avant d'écouter justement notre ami Thierry Nerzic. Mais encore une minute, vous allez descendre de charge. Effectivement, vous venez de l'annoncer. L'année 2021 donc, se déroulera au Grand Orient avec un nouveau grand maître. C'est peut-être d'ailleurs un des derniers entretiens que vous accordez à France Culture dans le cadre de votre charge maçonnique. Est-ce que vous avez un message particulier à adresser aux 54 000 frères et sœurs du Grand Orient de France ?
Absolument. Les francs-maçons du Grand Orient de France, les frères et les sœurs, partagent tous ensemble l'initiation. même si nos parcours sont différents, nous sommes tous des initiés. Et le ciment de la franc-maçonnerie, c'est la fraternité. Cette fraternité qui ne se décrète pas, mais qui se vit, qui se mérite et qui se cultive. La fraternité est un combat. C'est un combat de tous les jours, mais c'est le plus beau combat pour les francs-maçons. Voilà mon message d'espoir.
Merci beaucoup et bon vent, bonne route à vous, cher Jean-Philippe Hupsch. À très bientôt en tout cas. Alors Thierry, on vous a un petit peu pris du temps sur les annonces, mais nous sommes dans une période de corona, donc il va y avoir beaucoup de choses qui vont être à distance.
Oui, mon très cher Alexis, mon très cher grand maître, l'agenda connaît sa forme la plus minimaliste et j'en suis très triste. Mais en somme, il s'agit de se protéger les uns les autres et de ne pas encore surcharger de travail les soignants, auxquels nous pensons beaucoup et voulons assurer de tout notre soutien. Et après ces quelques éléments, je voudrais porter notre focus sur la Fondation du Grand Orient de France, reconnue d'utilité publique. Elle accompagne de nombreuses associations qui partagent ses valeurs humanistes et solidaires. Les projets et les organisations qu'elle aide sont situés à Paris et dans les différentes régions de France, mais aussi dans d'autres parties du monde. Et bien entendu, elle a développé des partenariats spécifiques avec les loges du Grand Orient de France pour des actions réalisées en proximité. Précisons que la Fondation remet publiquement ses contributions à des actions humanitaires, laïques et émancipatrices, et qu'à cette occasion, les frères et sœurs des loges des Orients concernés sont associés, et les vénérables maîtres sont présents pour rencontrer les responsables des associations bénéficiaires, les élus et la presse régionale. Notre frère Paul Rose, vice-président de la Fondation, rappelle aux frères et aux sœurs du Grand Orient de France que la Fondation lance ce mois de novembre un large appel à tous pour accentuer l'action philanthropique et émancipatrice de l'obédience. Vous en trouverez tous les éléments sur le site de la Fondation, www.fondation-godf.org.
Merci beaucoup, cher Thierry. Merci, cher Jean-Philippe Hupsch. Pour aujourd'hui, c'est terminé. Et on se retrouve normalement, si le corona nous le permet, dans un mois, au micro de divers aspects de la pensée contemporaine. Un merci tout particulier à Perlegras pour la production, à la technique pour Antoine Espel et à la coordination éditoriale pour Claire Poinsignon.